Un plateau, deux invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Premier invité, qui êtes-vous ?
Je suis Jean-Claude Rabier, professeur de sociologie à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste de sociologie industrielle, de sociologie de l'emploi et de sociologie économique, de sociologie des techniques aussi, et actuellement responsable du département sciences humaines et sociales de l'Agence nationale de la recherche.
Même question, pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Olivier Gosselin, je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles. J'enseigne et je fais de la recherche en archéologie, en histoire, en anthropologie. Et avec une série de collègues de différentes disciplines, nous avons créé un groupe qui prône la désexcellence du milieu académique, c'est-à-dire qui lutte contre la politique managériale de l'excellence.
Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti!
La science va-t-elle trop vite ? Oui, j'aurais envie de dire oui, la science va trop vite. La science va parfois pas très bien, la science parfois marche sur la tête, en tout cas ces dernières décennies. On est en face d'une frénésie de production, une frénésie de publication, une frénésie de production de brevets. Et si on pouvait résumer, alors c'est évidemment sous forme caricaturale, mais si on devait résumer l'état actuel de la recherche scientifique, pas seulement en France, mais d'une façon générale en Europe et dans le monde, c'est vite, beaucoup et malheureusement mal.
Oui, la science va-t-elle trop vite ? Je ne suis pas sûr que la question soit une question simple. En fait, je crois qu'il y a deux choses différentes. C'est la science, c'est-à-dire du point de vue des connaissances, et l'organisation de l'activité scientifique. La science va-t-elle trop vite ? Si on répond du premier point de vue, celui des connaissances, je ne crois pas. Je crois au contraire qu'on a du mal à progresser dans les connaissances et du point de vue qualitatif, et même du point de vue quantitatif. Par contre, si on se retourne du côté de l'organisation de l'activité scientifique, là, on a des problèmes qui sont des problèmes tout à fait concrets et qui ont fait entrer l'activité des chercheurs dans une contrainte qui est une contrainte temporelle extrêmement forte. Donc là, la science va-t-elle trop vite ? La réponse, c'est oui, elle va trop vite. Mais en même temps, cette contrainte temporelle est en quelque sorte le signe de la banalisation de la science qui devient une activité comme les autres et qui devient une activité soumise à un système de division du travail, à un système de contraintes économiques, à un système de contraintes sociales qui rendent l'activité du chercheur extrêmement difficile à réaliser.
Il est, je pense, indéniable que les chercheurs sont terriblement mis sous pression, de plus en plus, ce qui explique d'ailleurs tous les mouvements de contestation qui ont émergé ces dernières années au sein du monde académique. Alors, sous pression, avec toute une série d'impératifs, mais avec une idée sous-jacente qui est la compétitivité, la concurrence, la mise en concurrence au sein des institutions auxquelles on appartient, la mise en concurrence entre les institutions, la mise en concurrence sur le plan international, et la nécessité, face à cette mise en concurrence, qui est tout à fait artificielle, il faut le dire, ou en tout cas qui est fortement artificielle, la nécessité de produire des indicateurs qui vont permettre aux institutions, à son institution, à son labo et à soi-même, de montrer la qualité, de prouver la qualité de ce qu'on fait, de justifier ce qu'on fait comme activité de recherche. Cette mise sous pression a entraîné et pousse les chercheurs notamment à publier énormément, à publier très rapidement et à publier là où ça compte. Et s'il y a un des domaines dans lequel on voit le mieux apparaître les dérives liées à cette nouvelle organisation de la recherche scientifique, c'est dans le domaine des publications, où là, on va plutôt vers une baisse de qualité.
Ce dernier fait n'est pas contestable. Sur ça, je suis complètement sur ce qui concerne les publications, cette exigence de publication. Je dis moi-même à mes étudiants, ne cherchez plus, publiez. Hein, puisque le résultat, ça va être ça. La recherche se fait toujours dans l'urgence, se fait toujours avec des contraintes qui sont des contraintes fortes. Et il y a 40 ans, les contraintes étaient les mêmes qui s'exerçaient sur chacun des chercheurs. Par contre, toujours la même chose, deuxième séparation des problèmes, l'organisation à l'intérieur de laquelle le chercheur se déploie son activité, elle a changé. Elle a changé pour plusieurs raisons. Elle a changé d'abord par l'accroissement du nombre des chercheurs, qui est considérable. En 40 ans, on a multiplié par un facteur qui doit être 2, 3 et peut-être même plus dans un certain nombre de disciplines, le nombre de chercheurs qui travaillent ensemble. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est bien entendu l'introduction d'une idée du management à l'intérieur de la recherche. La recherche n'est plus une recherche qui est finalisée en elle-même, mais elle est finalisée par des objectifs externes à la recherche elle-même. Et ça, ça introduit un changement qui est un changement assez radical. Le troisième changement qu'il y a eu, c'est un changement qui porte sur la nécessité de mesurer les résultats de la recherche. Et dans les contextes économiques actuels, qui sont à la fois des contextes réels et des contextes idéologiques, la nécessité de prouver que la recherche sert à quelque chose, elle est devenue importante. Puis, on a un autre facteur qui est intervenu, qui est l'insertion dans une économie mondiale, qui est une économie qui a changé de nature, et dans laquelle la productivité de tout investissement doit être immédiatement réalisé, constaté. Or, la recherche, c'est une activité de long terme. C'est une activité de long terme. Quand on commence une recherche, d'abord, on ne sait jamais quand on va la finir, on ne sait jamais quels vont être les résultats. Et qu'une fois qu'on a ces résultats, le passage de la recherche jusqu'à des effets qui peuvent être des effets sur la société, sur l'économie, sur les technologies, c'est un passage qui peut demander des années aussi. Autrement dit, on ne peut pas évaluer une recherche avant 3 ans, 4 ans, 5 ans au minimum, après qu'elle se soit terminée. Or, ce qu'on le demande aux chercheurs maintenant, c'est d'être directement productif et de faire en sorte que de la paillasse à l'usine, il n'y ait plus d'intervalle ou qu'il y ait un intervalle le plus réduit possible. Et je crois que faut distinguer tout ça. Hein. C'est pour ça que je disais en introduction, la science va-t-elle trop vite? Je ne crois pas. Hein. Je crois qu'on est toujours dans le même rythme de l'activité scientifique. Mais les contraintes qui s'imposent aux chercheurs et les effets pervers de ces contraintes, là oui, elles sont extrêmement fortes.
Pour tout ce qui concerne les effets pervers, là je vous suis entièrement et je bois du petit lait en vous écoutant. Je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. La question de la temporalité me semble beaucoup plus problématique. Parce que ce qui est exigé des chercheurs maintenant dans cette frénésie productiviste fait qu'il y a une dispersion énorme, fait que le temps qui est consacré à produire ces publications en masse, le temps qui est consacré à décrocher des financements pharaoniques, à mettre sur pied des projets qui... on ne peut plus faire un simple projet de recherche aujourd'hui. On doit proposer un projet qui va transformer radicalement les connaissances, qui va remettre cul par-dessus tête tout ce qu'on savait jusque-là. En tout cas, c'est une incitation claire pour les grands projets de recherche. Donc toute une série de choses qui vont en fait réduire le temps effectif de la recherche, c'est-à-dire le temps effectif du mûrissement, du tâtonnement, d'une appropriation lente de concepts et d'une émergence extrêmement lente de connaissances.
Oui, non, mais on pense toujours aux chercheurs comme des chercheurs à temps plein, mais que les chercheurs sont rarement des chercheurs à temps plein. C'est-à-dire, ils ont une autre activité, et la plupart d'entre eux, enfin une grande partie d'entre eux, sont aussi des enseignants à l'intérieur des universités. Et que dans ce mythe peut-être hein, de la répartition équivalente du temps de travail entre le temps d'enseignement et le temps de recherche, le temps qui est consacré à l'enseignement a augmenté considérablement. D'ailleurs, il a augmenté à la fois parce que le nombre d'étudiants a augmenté dans les universités, ce qui n'est pas un mal en soi. Il a augmenté aussi parce que les charges universitaires des enseignants sont devenues de plus en plus importantes, encadrement de diplômes et toute autre activité qui sont des activités gestionnaires de l'établissement, qui fait que le temps que consacrent les chercheurs à la recherche est de plus en plus contraint. C'est-à-dire que non seulement on a les contraintes qui sont propres à l'organisation de la recherche, mais on a les contraintes qui sont propres à l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Maintenant, au fil des 40 dernières années, les moyens mis à la disposition des laboratoires comme des universités, même s'ils ont augmenté en nominal, proportionnellement au nombre d'étudiants, à la quantité de travail, eux ont diminué. Et donc, les chercheurs ont perdu les fonctions fonctions support qui sont celles du laboratoire. Et donc, le laboratoire ne vit plus sur ses propres moyens, il vit sur les projets qui sont rapportés par les chercheurs. Le résultat, c'est que la pression, elle porte sur le nombre de projets qu'il faut développer dans les laboratoires pour que le laboratoire puisse continuer à avoir son état.
Donc, avec une dérive qui est assez claire, c'est qu'on a à peine terminé de rédiger un projet et d'avoir éventuellement la chance de décrocher un financement, qu'on est déjà engagé dans la rédaction et la préparation d'un nouveau projet. Le temps nécessaire à mener à bien un projet qui, forcément, est un projet extraordinaire pour décrocher ces financements pharaoniques, le temps pour le mener à bien est réduit du fait de la préparation du projet suivant. Moi, je voudrais aussi revenir sur un autre aspect qui n'est pas seulement la question de la temporalité. Mmh. On en arrive, dans le domaine de la recherche, à, pour reprendre une expression populaire, à une situation où c'est la queue qui agite le chien. Ce n'est plus la recherche et les chercheurs qui, par l'exploration de champs qui parfois s'inscrivent dans une très longue durée, vont définir, raffiner leur objet et apporter des choses, mais c'est de l'extérieur, on va dire, voilà quels sont les indicateurs de qualité que vous devez produire, parce que c'est ça faire de la recherche, voilà quels sont les champs que vous devez explorer, voilà les finalités que vous devez obtenir, mais... Encore une fois, cette image de la queue qui agite le chien, de quelque chose où, hors des contextes concrets de la pratique de la recherche, une série d'états-majors ont établi des étalonnages pour la mesure de la qualité. Et c'est là qu'on voit une profusion de choses comme les agences qualité au niveau européen, avec des grilles standardisées pour évaluer la qualité de la production scientifique. Aucun scientifique digne de ce nom n'adhère au contenu de ces grilles et à la manière dont ces choses sont menées. Mais également, une des dérives, c'est comme on ne peut plus penser la recherche hors de... une finalité, une applicabilité, une valorisation. Alors, il y a la valorisation en termes d'image de l'institution, ça c'est la production des indicateurs d'excellence, mais il y a la valorisation en termes économiques, en termes sociétales. Et donc, des agences de financement de la recherche qui vont délimiter, baliser des domaines dans lesquels on va pouvoir travailler et qui, d'une certaine manière, et même avec bonne volonté, balise aussi ou contribue à baliser la façon dont on mène la recherche dans ces champs particuliers.
Je crois que vous exagérez un peu les contraintes qui existent. D'un côté, c'est vrai que l'Agence nationale de la recherche, pour ce qui est de la partie française, décide d'un certain nombre de programmes, qui sont des programmes thématiques, mais ces programmes thématiques ne sont pas élaborés par l'agence, ils sont élaborés par les chercheurs. Il y a tout un processus, consultation épistolaire de centaines de personnes, réunions, comités scientifiques, avec 30 personnes pour les sciences humaines et sociales, 30 personnes qui sont de niveau mondial, qui discutent et qui élaborent. Il n'y a aucune proposition qui soit faite dans les programmations qui ne viennent pas des chercheurs. Ça, c'est clair, net et précis. Et la deuxième chose, c'est que les chercheurs peuvent proposer ce qu'ils veulent. On finance quand même pour moitié des programmes qu'on appelle ouverts, on dit programmes blancs dans le vocabulaire français. Ces programmes ouverts, n'importe qui peut déposer n'importe quoi. Et les programmes sont financés exactement à parité, en quelque sorte, avec les programmes thématiques. Donc il n'y a pas... on laisse toutes les portes ouvertes.
Étant belge, je ne peux absolument pas porter un jugement informé sur l'ANR. Par contre, pour avoir participé au niveau européen à un processus de mise en place d'appels à projets et de balisage de champs qui étaient jugés intéressants pour les 5 ou 10 années à venir, je peux vous affirmer que le lobbying marche à plein et qu'il y a toute une série d'institutions universitaires qui ont très habilement placé leurs pions et qui déterminent des directions qui vont parvenir, qui vont contribuer en fait à financer leurs propres labos, leurs propres équipes. Et
qu'il y ait des effets sur ce type, c'est absolument indubitable, notamment au niveau européen. C'est que le lobbying joue à plein, ça c'est tout à fait d'accord.
Je ne dirais pas que c'est simplement le monde change qui permet d'expliquer les transformations auxquelles on est confronté. Par exemple, le productivisme en matière de science, c'est une vieille histoire. C'est quelque chose qui est bien connu au 19e siècle et qui avait déjà permis à Nietzsche de faire une petite remarque assez cocasse sur des chercheurs qu'il comparait à des poules qui étaient mises en batterie et que l'on forçait à pondre de plus en plus. Et il disait, forcément, à ce rythme-là, leurs œufs sont de plus en plus petits. Donc ça, c'est une chose qui est tout à fait, ancienne. Je dirais que ce qui change, c'est le monde que nous avons fabriqué ces dernières décennies, qui est un monde construit autour du dogme néolibéral. La pensée néolibérale a imprégné nos idéologies, l'idéologie dominante, et la pensée néolibérale imprègne nos comportements hors de l'université, hors des laboratoires, mais également à l'université et dans les laboratoires. On est passé de quelque chose qui était de l'ordre de la légitimité institutionnelle. L'institution est légitime par des pratiques, et l'institution de la recherche est légitime par des pratiques de recherche qui sont des pratiques de qualité et qui conduisent à la qualité. Donc on est passé à quelque chose qui est plus de l'ordre de la légitimité par le mode d'organisation. Et donc la rationalité scientifique s'efface devant la gestion. Et la gestion de la science. Alors, bien sûr, moi je vous jette ça à la figure, et je caricature et je résume fortement, mais derrière ces formules se cache quand même la réalité ou une certaine réalité d'un mode de gestion managériale, de l'implantation du management de la qualité ou le management de l'excellence, avec cette idée d'un cercle vertueux qui serait fait de deux éléments au moins. D'une part, une technique managériale qui a été développée dans les années 80 dans le domaine privé, et d'autre part, des évaluations, les deux allant vers une qualité illimitée. Mmh. On est dans l'accroissement permanent de la qualité.
Sur beaucoup de choses, je vous suis. Moi, ce que je reprocherais plus au milieu de la recherche, c'est de ne pas avoir réussi à se saisir de son problème, de son organisation. On est resté sur des formes qui étaient des formes standardisées, élaborées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les chercheurs ont continué de travailler avec ces organismes, et faute de mieux, en quelque sorte, face aux attaques dont ils étaient victimes, hein, ces attaques étant à la fois des attaques idéologiques et des attaques très, très concrètes à caractère économique, hein, n'ont pas réussi à s'organiser eux-mêmes, et ils ont défendu les points de vue qui existaient, ils ont défendu les institutions qui existaient. Alors qu'il aurait probablement fallu que la recherche s'auto-organise, c'est-à-dire que les chercheurs se prennent en charge. Le résultat, c'est que on est arrivé à se faire imposer des organisations qui sont des organisations externes, hein, des règles d'organisation externes, des règles de fonctionnement externes. Et c'est là qu'il faudrait que le bât blesse, en quelque sorte, et qu'il faudrait trouver un point d'action. Il faudrait que les chercheurs s'organisent eux-mêmes et organisent leurs chercheurs. Après, on peut pas non plus dépenser de l'argent public de manière relativement massive, hein, dans la recherche sans qu'il y ait la nécessité d'une évaluation et sans qu'il y ait la nécessité d'un compte rendu à la collectivité de ce que l'on fait de l'argent et de ce qu'on fait de nos salaires, hein, puisque nos salaires sont payés par la collectivité. Donc ça, moi, sur l'évaluation, le problème est, me semble-t-il, le même que sur celui de l'organisation. C'est-à-dire, les chercheurs ont plus eu une tendance à refuser des évaluations externes au lieu de prendre en main leur propre évaluation et de décider de ce qu'était leur évaluation. Le résultat, c'est que si on conjugue le politique et les systèmes idéologiques dominants qui se mettent en place, si on conjugue cette incapacité des chercheurs à prendre leur propre métier et leur propre gestion en main, on s'est fait imposer un certain nombre de trucs par les autorités politiques qui, la plupart du temps, hein, qui ont pris les modèles qui étaient les leurs et qui ont appliqué les modèles qui étaient les leurs. Alors, certains modèles sont bons. Hein, ça, le financement par projet, par exemple, est bon. L'excellence, c'est bon aussi, à condition qu'on ne soit pas sur des gestions de stock permanents. C'est-à-dire qu'on dise, voilà, des gens excellents, et donc ces gens excellents, on leur donne les moyens de faire l'excellence.
Je vais vous reprendre tout de suite sur le terme excellence.
Oui,
en vous citant,
je m'y attendais un peu.
Par boutade de ce qu'en dit un collègue anglais, je vous traduis sa phrase, c'est le mot excellence, il parle dans le milieu académique, a été tellement sali par un usage malhonnête que c'en est devenu un égout intellectuel. Et aujourd'hui, le mot « excellence », qui a été d'abord agité dans les années 80, les années 90, dans le domaine de l'entreprise, sert à tout et à n'importe quoi. Et surtout, sert à masquer une baisse de qualité et des problèmes énormes dans le fonctionnement du monde de la recherche. Et donc c'est un cache-sexe, l'excellence, c'est un drapeau que certains brandissent avec énormément de fierté, mais qui n'a absolument rien à voir aujourd'hui avec la qualité intrinsèque des savoirs scientifiques, de la production scientifique. Et au contraire, au nom de l'excellence, beaucoup de choses extrêmement médiocres sur le plan scientifique sont produit et perpétué. Alors je reviens sur la question des évaluations, parce que ça c'est un des grands classiques, c'est de dire, il est évident que puisque vous fonctionnez avec de l'argent public, il faut rendre des comptes au public. Bah, ça, qui ne serait pas d'accord avec cette idée-là? Mais rend-on des comptes au public dans le système d'évaluation tel qu'il a été mis en place maintenant? En réalité, on rend des comptes à des institutions extra-scientifiques, dont le public n'a aucune connaissance et dont les avis ne percolent jamais jusqu'au public. Et le mode d'évaluation, étant ce qu'il est, avec ses grilles standardisées, en réalité n'évalue pas la vraie production scientifique, et on ne va pas revenir là-dessus, mais pervertit les pratiques scientifiques parce que ça pousse les scientifiques à produire des indicateurs de qualité. Et donc je dirais que la mise en place actuelle de ces évaluations et de ces agences d'évaluation contribue en fait à mentir au public. Et donc au nom de ce que les anglo-saxons appellent la accountability, on se fout complètement du public. Un des mérites, bah voyons les bons côtés des problèmes, hein. Un des mérites de la situation actuelle et des effets désastreux de la mise en place de politiques de la recherche, c'est d'avoir agité la communauté scientifique et créé enfin une réflexion qui fait émerger des questionnements qui vont très loin. À quoi sert l'université? Quelle est la fonction de l'université? Comment accepter la mise en place d'un dispositif qui va accroître encore la pression, qui va accroître cette fragilité? Ce sont des choses qu'on doit très subtilement cultiver l'émergence du savoir scientifique et les communautés de chercheurs, mais on fait l'inverse. Bon, je ne dirais pas le temps propre de la science, beaucoup plus prudemment, les temps propres de la science. Il y a beaucoup de temporalités. Ceci dit, je pense qu'il y a une série de choses qu'on peut quand même observer et qui irait plutôt dans le sens d'un plaidoyer pour le temps long. Il y a d'abord le temps long de la production scientifique, qui est le temps, je reprends des termes d'un scientifique américain qui disait qu'on va pendant des décennies et parfois plusieurs générations de chercheurs labourer opiniâtrement un champ de manière à créer des conditions qui vont permettre la reconnaissance de ce qui est intéressant et qui vont permettre de faire émerger des choses nouvelles. Hein, l'idée grand public, généralement, c'est de se dire il y a l'éclair de génie, mais l'éclair de génie n'existe pas. L'éclair de génie, c'est la capacité à reconnaître dans une situation vraiment bien connue et souvent labourée par bien d'autres, des choses qui peuvent avoir un intérêt.
Alors, tout à fait d'accord, hein, s'il y a un temps de la science, c'est un temps long. En plus, nous ne pouvons avoir de conclusions ou d'idées ou d'hypothèses confirmées scientifiques que si on fait de la comparaison temporelle. Non seulement de la comparaison temporelle, mais en plus de la comparaison internationale, hein, avec d'autres sociétés, d'autres cultures. Et toutes ces toute cette comparaison nécessaire nécessite aussi du temps. Autrement dit, entre le moment où on a une idée de recherche, c'est-à-dire qu'elle a émergé des savoirs existants, et le moment où on va produire des résultats, ce sont des années, voire une vie entière qui se passe. Et ça, c'est des choses que, dans le contexte actuel de l'économie ou du libéralisme, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre que ça, c'est le temps de la recherche. Mais on demande à la fois aux chercheurs d'être le plus possible inséré dans des équipes de recherche, et en même temps, on lui demande d'être une personne en tant que telle, évaluée en tant que telle. Or, le travail de la recherche, c'est un travail collectif. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris que le travail de la recherche est un travail collectif, on ne pourra pas arriver à la fois favoriser l'implication des chercheurs à l'intérieur de ce travail collectif, et simultanément, on ne pourra pas accélérer le temps de la recherche, puisque tout le temps que les gens consacrent à leur activité individuelle n'est pas consacré au travail collectif, qui est le seul qui permet de faire progresser les connaissances.
Alors, je vais rebondir là-dessus. Il y a un autre aspect au niveau des équipes et des projets, c'est le temps long de la recherche pluridisciplinaire. Ayant une formation d'archéologue, je mets ça sur la table parce que l'archéologie est une discipline qui, par essence, est pluridisciplinaire. Elle ne peut pas être autrement que pluridisciplinaire. Et donc, ce qui m'a souvent frappé, c'est le décalage qui existait entre, d'une part, l'incitation à faire des projets pluridisciplinaires, qui est une incitation totalement positive, mais le temps imparti à la mise sur pied et à la poursuite d'un projet pluridisciplinaire. Quand vous réunissez des scientifiques qui appartiennent à des disciplines différentes, il faut un temps énorme, et ça se compte en années, pour apprendre à se parler, pour apprendre à se comprendre, pour apprendre à savoir quelles sont les choses sur lesquelles les uns et les autres travaillent et comment est-ce qu'on va pouvoir faire une fertilisation croisée. Parce que si on veut aller trop vite, et si on met simplement des scientifiques qui appartiennent à des disciplines différentes, sans leur donner le temps de se découvrir mutuellement, et encore une fois, c'est un temps long, si on fait ça, on fait de la juxtaposition de disciplines. Il n'y a pas de fertilisation croisée.
Non, oui, tout à fait d'accord. Mais la pluridisciplinarité, je crois que c'est une exigence. Pratiquement toutes nos disciplines sont des disciplines qui ont atteint leurs limites scientifique. Ce que je veux dire par là, même si c'est un propos un petit peu rapide, c'est de dire que les capacités novatrices ne sont plus dans les cercles fermés. Et c'est seulement aux frontières qu'on arrive à avoir des connaissances. Et donc, il faut qu'on établisse ces frontières. Et un des rôles dans la connaissance, c'est d'établir les frontières. Et là encore, je vais vous rejoindre aussi sur le diagnostic général des effets. Je crois que toutes les pressions qui sont fournies sur sont demandés, exercés, ceux qui veulent des résultats rapides, en pressant la science, en empêchant ce qui est la dynamique et le temps propre de la science, empêche aussi la production des résultats. C'est pas la même chose que l'appauvrissement des résultats dont on parlait tout à l'heure. Là, on est dans une limitation de la capacité des scientifiques. Et si on poursuit dans cette voie, on va arriver à un moment où on va empêcher la production d'idées nouvelles, parce que on n'a pas les éléments pour le faire.
Pour moi, l'appauvrissement, c'est évidemment au niveau de la qualité, mais c'est aussi le formatage des champs. C'est aussi la difficulté de penser d'autres façons de faire et d'autres temporalités de recherche. C'est dans ce sens-là que je parle d'appauvrissement. Quand je vois, encore une fois, le mode de gestion de la recherche, moi, ça me fait penser à L'homme pressé de Paul Morand, avec cette idée du précipital. On veut absolument verser des choses qui vont permettre de faire pousser les plantes plus vite, mais les plantes ont leur cycle et ne permettent pas de pousser comme ça.
Le problème qui se pose donc aux chercheurs scientifiques, c'est d'arriver à se réapproprier leur temporalité. C'est d'arriver à réintroduire la dimension qui est la leur et les formes de travail qui sont les leurs. À la fois les formes organisationnelles, les formes temporelles et les formes de décision qui sont les leurs. Comme les chercheurs ont besoin de moyens, cette réappropriation par les chercheurs ne peut pas se faire sans qu'il y ait un lien avec les fournisseurs des moyens, c'est-à-dire les organismes qui pilotent la recherche, qui financent les chercheurs en termes de salaire, etc., les universités, qui sont quand même un des pôles essentiels hein, du travail universitaire, puis avec les agences de recherche et les formes de travail qu'il faut arriver à inventer. Mais c'est la participation des chercheurs à l'ensemble de ces dispositifs, même s'ils sont imparfaits, hein, qui peut arriver à les transformer.
Je vous dirais, c'est un des leitmotifs de notre groupe de Des Excellents, parce que pour nous, l'idée centrale, c'est que nous devons nous changer nous-mêmes. Nous devons nous transformer nous-mêmes de manière à mettre nos pratiques de recherche en accord avec nos valeurs de recherche. Et ça, c'est un chemin qui doit être nécessairement entrepris si on veut transformer aussi les structures de la recherche. Ce qui n'est pas une façon non plus de dire qu'il ne doit pas y avoir une critique politique forte du mode de gestion de la recherche. Mais cette notion de transformation est quelque chose qui est tout à fait essentiel, parce que en respectant les injonctions et en continuant à produire avant tout, ou en privilégiant la production d'indicateurs d'excellence, nous sommes au quotidien les acteurs de notre propre destruction. Et donc ça, c'est un refus clair en disant nous ne voulons plus être acteurs de notre destruction.
Non, ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire évoluer l'évaluation de telle manière qu'on puisse avoir une évaluation qui à mon sens est légitime, qui à mon sens est nécessaire, mais qui doit être prise en charge par les chercheurs sur les valeurs des chercheurs, ça je vous rejoins, et sur les modes de travaux des chercheurs.
Et ce qui nous permettra de sortir de ce que Christian Morel appelle les erreurs radicales et persistantes.
Oui, sauf que je ne suis pas sûr que nous soyons capables seuls de sortir de ces erreurs radicales.
Par contre, je suis absolument convaincu que les solutions vont venir des chercheurs eux-mêmes. Et qu'il y a de ce côté-là, à condition de se retrousser les manches et de penser aussi à ces conditions de recherche et moins peut-être à certains moments à ces objets de recherche, il y a des possibilités de sortir par le haut de ce qui, actuellement, a plutôt l'air d'être une crise.
Oui, sortir par le haut, ça, moi, j'en doute absolument pas. À partir du moment où les chercheurs se prendront en main, là, ça, on se rejoint, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je crois que les chercheurs ne peuvent pas faire sans les institutions qui sont existantes à l'heure actuelle. Il faudrait comprendre qu'une grande partie des institutions, qui sont les institutions de recherche qui pilotés par des chercheurs et dans lesquels des chercheurs sont engagés, ne sont pas nécessairement des ennemis. Et donc, je crois qu'il y a un travail commun à mener, et qui ce travail commun ayant comme avantage de ne pas arrêter d'un seul coup la recherche. Je donne simplement un exemple. Si l'ANR s'arrête, il n'y a plus de financement des chercheurs. Donc, il faut continuer ce mouvement en l'améliorant et en essayant de transformer ce double jeu entre les chercheurs d'un côté, les institutions existantes de l'autre côté, afin d'arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, la temporalité de la recherche et le contenu de la recherche.
Pour qu'il ait lieu, il faudra évidemment restaurer la confiance des chercheurs dans ces institutions. Ça veut dire que les institutions doivent arrêter aussi de donner l'impression d'être gouvernées par une pensée magique managériale.
Tout à fait.
C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. Deux invités dans ce même plateau, rien que pour eux.